Combien vous avez eu l'impression à un moment donné d'être comme le petit souris, mais une fois que le piège a fait clac et tu as pensé que tu allais perdre la tête. Et parfois, on découvre quelque chose dans la grâce de Dieu une fois passé par là, n'est-ce pas? Quelque chose de la grâce de Dieu qu'on n'a jamais pu connaître avant. Je me souviens une petite histoire d'un jeune homme qui vient à finir ses études en fac théologique, et puis il est invité à remplacer un pasteur un dimanche matin. Ah, le jeune homme, il était rempli du feu de Dieu, vraiment rempli. Alors il arrive sur le podium, il attendait ce message, il avait prié, jeûné pendant 3 jours. Et puis là, il monte le podium, c'était l'heure de le moment pour prêcher. Il a prêché avec feu, il a crié, il a hurlé, il a craché, il a fait tout. Et là, il regardait, personne n'écoutait. Les gens étaient complètement déconnectés de son message. Alors, petit à petit, il commence à ralentir, commence à se déprimer un peu, parce que là, il voyait que là, c'était complètement un échec. Et puis, à la fin du message, il dit, je suis vraiment désolé, parce que bien évidemment, je n'ai pas bien préparé, et je vous prie d'avoir pitié sur moi, je suis un jeune homme, et vraiment, mais par la grâce de Dieu, on va continuer. Ben, il pose le micro, il descend le podium. Et puis c'était la fin du culte et les gens partaient par la porte. Et puis il restait une petite dame, une vieille dame, qui était là depuis le début de l'église. Et puis finalement, elle s'approche au jeune homme qui était toujours sur le devant, tout seul, un peu dans sa misère. Et puis elle lui dit le suivant. « Si tu avais monté comme tu es descendu, tu serais descendu comme tu es monté. » C'est pas mal, pas mal. Et je trouve que parfois, dans venir apprendre, être un meilleur leader, parce que vous êtes déjà des leaders, vous l'êtes déjà. Si vous n'étiez pas un leader, vous ne serez pas là ce soir. Vous êtes déjà un leader, en quelque sorte. Vous n'êtes pas là pour apprendre à être un leader, vous êtes là pour apprendre à être un meilleur leader, n'est-ce pas? Alléluia. Vous allez entendre parfois des choses que vous n'avez jamais entendues, mais ça serait plutôt rare. En fait, ce que vous allez entendre pendant ces séminaires et ces sessions, ne faites que confirmer des choses que vous savez plus ou moins déjà. Pourquoi? Un leader, un bon leader est toujours en quelque sorte un pionnier. Un pionnier. C'est-à-dire que vous êtes bien dans les choses pour lesquelles vous n'êtes pas forcément diplômé. Hello? C'est ce qu'on appelle quelqu'un qui apprenne par son intuition. Vous vous trouvez dans une situation, vous priez, vous réfléchissez, vous faites le calcul et vous trouvez le chemin. Et c'est ça ce qui vous rend efficace dans le domaine du leadership. Cette capacité, cette intuition. Le problème, c'est que la plupart des gens qui te suivent ne sont pas du tout intuitifs. Et quand tu veux leur apprendre à faire, tu te dis, mais le problème, c'est que personne ne m'a appris. Alors, et parce que personne ne m'a appris, je ne sais pas vraiment transférer la connaissance que j'ai acquise. Alors, ce que je trouve remarquable avec John Maxwell, c'est que, et ce n'est pas une critique, c'est un constat, mais ce qu'il a fait en tant que pasteur, c'était bien, mais ce n'était pas colossal. Il y a des pasteurs qui, avec beaucoup plus d'expertise, de connaissances et des années d'expérience. Mais John Maxwell, je trouve qu'il arrive à communiquer des valeurs, des principes, mieux que n'importe qui d'autre. Et c'est ça qui est génial avec ces outils. Vous savez, nous sommes tous des mécaniques. Et un bon mécanique n'est pas meilleur que les outils dont il dispose. Et si vous aurez des outils avec cette formation, dès que j'ai vu... Et ça remonte, je crois, la première fois que j'ai contacté quelqu'un avec Equip, ça remonte d'au moins 8 ans. Et dès que j'ai vu les cahiers et que j'ai appris comment ça fonctionne, j'ai dit, ben, c'est ça ce qui va marcher en France. Ça fait bientôt 24 ans que je suis en France. Combien de prédicateurs nous avons vu venir à Paris avec sa culture, on va dire, outre-Atlantique. Et la réaction était toujours, ok, ça marche très bien là-bas, mais franchement, sois réaliste, quelles sont les chances que ça va marcher aussi bien? Mais bon, de temps en temps, vous êtes peut-être comme moi. On est tellement, tellement désespéré, on est prêt au moins à essayer une fois. on prend plein les claques et on dit, bon, plus jamais. Et je crois que c'est ça ce qui est très, tellement bien avec ces outils, parce que vous pouvez les modifier. Chaque église a sa culture, chaque église a ses valeurs. Et j'aimerais vraiment vous encourager que lorsque vous êtes là, de recevoir de Paul, surtout de Paul, un dépôt. Cet homme, il était, franchement, avez-vous jamais rencontré quelqu'un avec plus de personnalité que Paul Goulet? Mais le gars, malgré cette histoire d'enfance dont il nous a fait part aujourd'hui, mais franchement, le gars, il a reçu une super dose de personnalité. N'est-ce pas? Et malgré parfois les problèmes de langue, mais ça ne pose pas de problème vraiment à la fin. Parce qu'il est tellement riche en esprit, tellement riche en foi et d'enthousiasme. Mais recevez ce dépôt, frères et sœurs. Ça va vous faire un tel bien. Ça va vous décoincer, si je peux. Si je peux. OK? Quoique, peut-être ici, les gens n'ont pas besoin d'être décoincés. Mais parfois, ça nous fait du bien. D'accord? OK, une autre chose j'aimerais vous dire. Et ça, vous allez l'entendre dans les propos de Paul, lorsqu'il enseigne. Il provient d'une culture qui récompense l'initiative personnelle. Vous êtes félicité, vous êtes récompensé quand vous essayez quelque chose. Le gars qui se lève, qui se dit « j'ai une idée », va décoiffer. Il y a au moins 10 investisseurs prêts à investir dans le gars. Le problème, c'est que vous ici, ben, je dois dire vous parce que moi, j'ai passé 24 ans ici, mais j'ai un peu plus que 25. Non. Mais bientôt, j'aurai passé la moitié de ma vie en France. J'ai élevé 2 enfants qui ont fait leur éducation en France. La deuxième est en terminale cette année. Elle fait terminale L. Elle a droit à 8 heures de philo par semaine. Alors, je comprends, et de mieux en mieux, ce que vous avez subi. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 8 heures de philo par semaine? Et on m'a dit que dans le bon vieux temps, c'était 12 heures par semaine de philo pour le bac L. Alors là, j'ai dit, mais Seigneur, je comprends maintenant pourquoi les gens ils ont tellement peur d'essayer quelque chose. Pourquoi il faut convoquer un comité, discuter jusqu'à ce qu'on meure de discussion, jamais faire. Paul, c'est un faiseur. Il provient d'une culture de gens qui aiment faire, pas réfléchir. Je peux le dire parce que je proviens de cette culture. Et parfois, cette accusation est juste. On agit avant de réfléchir. Ici, le problème, c'est pour ça que j'ai tellement de confiance qu'ensemble, on va trouver vraiment le bon chemin. Amen. Ce côté de l'Atlantique, nous réfléchissons trop. Et on faisait trop peu. L'autre côté, on fait trop avant de réfléchir. Alors si jamais on peut se rencontrer, se marier et partager nos points forts, on va peut-être neutraliser nos points faibles. Amen. Alléluia. Mais n'ayons jamais peur. Il est vrai que comme nous avons vu dans le clip du souris, nous vivons toujours dans la terre de la guillotine. Il suffit que tu aies la tête le plus élevée, on vient te chercher. Le petit gars qui vient se faire descendre, on est tellement rempli de miséricorde. Je n'ai jamais vu un peuple plus miséricordieux que le français. Vous savez qu'après les attentats du 11 septembre, le premier chef d'État qui survolait Ground Zero à New York, c'était Jacques Chirac. Le même qui a critiqué président Bush des années après, pour montrer la solidarité du peuple français. Combien j'étais touché, vous savez que le 11 septembre, c'était le 10e anniversaire cette année, et le 11 septembre, il y avait à la place de Trocadéro une commémoration de cette énorme tragédie. J'y étais, j'étais tellement touché. Une association en français, en France, qui s'appelle We Will Never Forget. Un peuple tellement rempli de miséricorde. Je crois que dans les récoltes de fonds, que ce soit pour la recherche de cancer, que ce soit pour les victimes des tsunamis, quelle que soit l'œuvre, le français est un peuple généreux. Ne laisse jamais un étranger vous dire le contraire. Je défends les Français. Parce que j'ai vu la générosité. Il y a quelques années, ma maison a pris feu. Je ne vais pas vous dire comment, parce que c'était une bêtise. Ma maison a pris feu. Alors, quels étaient les premiers à venir à notre secours? C'était des Français. Mais le problème, c'est que maintenant, j'ai appris. Lorsque j'ai un énorme projet, je suis visionnaire. Tous les semaines, j'ai un nouveau projet. J'ai dû apprendre, depuis ces 20 ans, comment présenter le projet. En toute douceur. En créant des comités sur comités sur comités, jusqu'à ce que mon idée devienne la leur. Et là, ils s'engagent. Mais tant que ça reste mon idée, ils sont remplis de méfiance. Il faut prendre le temps pour que cette idée, qui j'espère était au début l'idée de Dieu, devienne leur idée. Voilà. C'est-à-dire que même avec tout ce que nous apprenons ici, alléluia. Il y a un travail d'application à faire. Alléluia. Et j'ai l'honneur à enseigner ce soir les principes de délégation. Et là, nous touchons quelque chose particulièrement unique en France. Remarquez, je n'ai pas dit dur. J'aimerais qu'on efface ce mot de notre vocabulaire. Parce que nous avons une situation unique, ne le rend pas plus dur, juste différent. Amen. Et ne me dis pas parce que le péché abonde que la grâce de Dieu n'est pas suffisante. Parce que ma Bible me dit le contraire. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Si nous avons des obstacles, ça veut dire que Dieu va nous donner davantage d'échelles pour dépasser les obstacles, n'est-ce pas? Il faut juste simplement les chercher. On ne va pas toujours trouver la solution à l'autre côté de l'Atlantique pour la situation ici. On peut s'inspirer. Amen, ça il faut. Alléluia. Mais il y a des solutions particulières à nos problèmes, à nos défis. Alléluia. J'étais pasteur pendant 7 ans avant de venir en France. 24 ans en France. Au niveau de mon pastorat, je suis plus français qu'américain. Et je crois en tout ce que je vais vous donner ce soir. Ça marche. Hallelujah. Je crois à la délégation. Maintenant, si je vous pose la question, combien croient qu'il faut déléguer? Qui ne lèvera pas la main? Combien vous avez eu une réussite à 100% dans la délégation? Ben voilà. Voilà où on est tous. On sait. Si je vous dis, il faut déléguer, ben merci beaucoup, je le sais déjà. Si j'avais des gens fidèles, je pourrais mieux déléguer. Puis-je dire que vous avez déjà autour de vous des gens fidèles? Vous l'avez déjà. Combien de vous avez des gens dans l'église qui sont là depuis au moins 3 ans? Vous avez au moins une personne dans ton église qui est là depuis au moins 3 ans. C'est tout? Waouh, ça bouge beaucoup ici. Vous n'avez pas compris la question peut-être? Si. Combien? Vous avez au moins une personne dans ton assemblée qui est là depuis au moins 3 ans. Ça veut dire que vous avez des gens fidèles autour de vous. Parce qu'à Paris, une personne qui n'est pas fidèle ne reste rarement plus long que 3 ans. Voilà. Si quelqu'un va rester avec toi au moins 3 ans, il y a une très forte chance qu'il est là pour du bien. Voilà. Il va vraiment courir avec toi pendant un bon chemin. Alléluia. Vous avez des gens fidèles. Mais parfois, on n'est pas aussi efficace dans la délégation. Et c'est pour ça, c'est une question, pas déléguée, mais mieux déléguée. Amen. Vous êtes avec moi? Alléluia. OK. On parlera ce soir du principe Jéthro. Jéthro. Jéthro, vous le savez bien, cette belle histoire dans le livre d'Exode, le beau-père de Moïse, qui dit à Moïse qu'il va falloir vraiment bien apprendre et déléguer, sinon tu vas t'épuiser, toi et le peuple. Et si vous avez des gens fatigués dans ton église, moi je crois que la fatigue est parfois un signe qu'on n'a pas bien délégué. Bon, J'admets, je suis souvent fatigué. Je suis souvent fatigué, mais quelqu'un m'a dit une fois, et je le crois, que la fatigue est parfois un outil du Saint-Esprit pour nous apprendre que nous avons dépassé la zone de grâce. La fatigue est parfois un outil du Saint-Esprit pour nous montrer que nous avons dépassé la zone de grâce. Dieu, est-ce qu'il se fatigue? Non, il ne se fatigue jamais. Dieu est-il rempli de grâce? Le Saint-Esprit est-il parfois en panne d'onction? Okay? Non, c'est-à-dire que d'un point de vue purement théologique, il ne faut jamais être fatigué, n'est-ce pas? Le problème, c'est que nous sommes, je dirais qu'au moins 90% des gens ici, vous êtes fatigués. Peut-être parce que vous êtes assis depuis toute la journée, peut-être, ok. On va probablement terminer plus tôt ce soir, ok, persévérons. Mais la fatigue dont nous souffrons, la fatigue qui, je ne parle pas de la petite coup de fatigue à 15 heures dans l'après-midi parce qu'on a mangé trop dans l'après-midi, ok. Je ne parle pas de ce genre de fatigue, je parle vraiment de la fatigue chronique. Que malgré un mois de vacances, on est toujours fatigué. Ça, c'est la fatigue chronique. Je regarde l'âge moyenne. Si on a des gens chroniquement fatigués, ça, c'est pas bon. J'étais en Suisse. Philippe était là. J'ai vu David Rouxette tout à l'heure. Je ne sais pas si David est encore là. Mais on était allé en Suisse parce qu'on a entendu parler d'une conférence sur le ministère apostolique et prophétique dans l'Église. On était très intéressés. On était allés. Pendant qu'on y était, je croise un couple prophète venant des États-Unis. Et comme je savais que c'était des Américains, je leur dis dans mon bon anglais, parce que j'arrive quand même à parler anglais un petit peu, je dis « Hi, how are you doing ?» Alors c'était quand même un choc d'entendre de tels accents au milieu de la Suisse. Alors ils se sont arrêtés, ils m'ont regardé, mais ils m'ont dit « Mais ah, et tu t'appelles comment? Qui es-tu ?» Je me présente et dis « Mais et combien d'années tu es pasteur ?» Je le dis, il dit, mais pourquoi tu es si heureux? C'est pas normal. C'est pas normal. On ne connaît pas de pasteur heureux en France. Les jeunes pasteurs, oui, mais des pasteurs d'un certain âge, ça, on ne connaît pas. Et je ne dis pas qu'on est malheureux, mais on est fatigué. On est fatigué. Et ça, je crois que Dieu veut le changer. Amen. Il veut vraiment nous inspirer, il veut nous instruire pour que nous sachions mieux comment déléguer et comment élever ceux à qui nous avons délégué. Amen. Parce que mes amis, toi et moi, seuls, on ne va pas gagner la France. Il faut vraiment une véritable armée. C'est la force de la France. La France supporte mal le one-man show. Le français supporte mal la vedette chrétienne. Alors, si un pays a été choisi par Dieu pour montrer la puissance de l'esprit d'équipe, c'est bien la France. Vous êtes prêts? Alléluia. Amen. Vivre la France. Alors, regardons sept changements dans la vie de Moïse qui a fait de lui un bon leader. Moïse est devenu un homme de prière. Un homme de prière. Alléluia. Peut-être tu as besoin d'être rafraîchi dans ta vie de prière. Alléluia. Seigneur, je prie maintenant au nom de Jésus que partout dans cette salle, nous savons qu'il y a le devoir de prier. Mais parfois, il nous manque, Seigneur, les délices dans la prière. Et Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs, je prie pour moi-même. Alléluia, que la fatigue ne puisse jamais entrer dans notre vie de prière. Alléluia, au nom de Jésus-Christ, ferme juste les yeux. Et si c'est toi juste, tu as besoin d'être rafraîchi dans ta vie de prière. Je ne parle pas des réunions de prière dans l'église. Pasteur, si c'est le seul moment où tu pries vraiment avec tout ton cœur dans la réunion de prière de l'église, ça, ce n'est pas bon. Et tu ne survivras pas longtemps. Alléluia, il faut cultiver une vie de prière personnelle. Lève la main avec moi, s'il te plaît, si c'est bien toi. Seigneur, tu vois les mains levées dans cette salle. Nous avons besoin d'être rafraîchis dans notre vie de prière. Alléluia, Seigneur, n'a aucune condamnation dans ce lieu. Pas de condamnation, Seigneur Dieu. Nous sommes entre collègues ici et nous sommes entre amis. Père, il n'y a aucune condamnation. Nous brisons cet esprit de condamnation au nom de Jésus. Et Seigneur Jésus, je te demande maintenant de souffler l'esprit de vie sur chacun de mes frères et sœurs. Rafraîchis-nous dans ta présence, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si vous êtes d'accord avec ça, dites Amen. Amen. Moïse était un communicateur. Il s'est engagé, numéro 2, à communiquer. Il s'est engagé à communiquer. Nous sommes des communicateurs. Que Dieu nous aide. Ah, je sais que la vision est brûlante dans ton cœur. Tu vis dans ta vision. Tu vis dedans. C'est normal. Le problème, c'est que les gens qui veulent te suivre, ils ne vivent pas dans ta vision. Ils ne peuvent pas entrer dans ta tête. Ils ne peuvent pas déchiffrer le code que tu utilises lorsque tu parles de comment Dieu t'a parlé, de ce que tu as reçu du ciel. Ils n'arrivent pas, ils ont le bon vouloir. Je me souviens, après avoir prêché pendant presque 6 mois, la vision de l'Église et les valeurs de l'Église. Un de mes responsables dans l'équipe, ça remonte il y a des années, mais un des responsables m'a dit, mais Robert, je ne comprends rien de ce que tu dis là. Au bout de 6 mois, ah, j'étais tellement frustré. Je dis, mais comment peux-tu ne pas comprendre? Moi, je comprends tout à fait bien. Mais entre ma tête et la leur, il y a de nombreux obstacles. Amen. C'est-à-dire, il ne faut jamais présumer qu'on est un bon communicateur. On est loin de Dieu, on est appelé, gloire à Dieu. Mais il ne faut jamais présumer que nous sommes des bons communicateurs. Jamais. Parce que dès que tu le penses, là tu commences à couper les cordes avec les gens. Okay? Ils veulent te faire confiance, ils veulent te suivre, mais vous ne pouvez pas imaginer le nombre de pasteurs à qui je parle. Ils disent, oui, les gens ne me suivent pas, ceci, cela, je parle avec des gens. Ils me disent, mais on n'a aucune idée où il va. On aimerait bien le suivre. Mais il ne dit jamais où il va. Il fonce. Il s'attend à ce qu'on est derrière. Mais on aimerait juste savoir où il va. Écoute, je le dis à l'équipe. Dieu m'a donné le rôle de fixer le GPS. De mettre l'adresse dans le GPS. Mais ça ne me pose aucun problème de laisser quelqu'un d'autre mettre ses mains sur le volant. Tant que le GPS est fixé. On peut en discuter. On peut s'arrêter en route. On peut faire un pit stop. Il n'y a pas de problème. Okay. Mais les gens, ils veulent... Aujourd'hui, les gens, et surtout les jeunes, ils ont besoin de savoir où tu vas. Ils ne vont pas juste suivre parce que tu es loin. Vous êtes là. Un bon communicateur. Numéro 3. Il a défini sa vision. Il a défini sa vision. Et la vision n'était pas juste d'aller dans la terre promise. La vision était tout d'abord d'être le peuple de Dieu, le peuple choisi. Et très souvent, on met trop d'importance sur la destination et non pas le être. Numéro 4. Moïse a élaboré un plan. Il a élaboré un plan. Vous savez ce que j'aime avec Jésus, il est pratique. Nous voyons Jésus dire en Matthieu 28, « Allez et faites de toutes les nations les disciples. » Imaginez, tu fais partie des 12 moins un. Un des 12 qui vient se tuer. Suicide. Quand même, tu as vécu 3 ans avec ce gars. Ok, tu ignorais qu'il était voleur, mais quand même, allez se tuer. Waouh! C'est fort. Imaginons juste un instant le niveau émotionnel des 11 disciples de Jésus. Et n'oublions pas non plus que la plupart d'entre eux, ils ont quitté Jésus au moment de son besoin. Ils sont partis en courant. Et là, Jésus leur regarde dans les yeux. Ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Il leur dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Ah oui, c'est un joker. Comment allons-nous faire? J'aime bien. Il dit, en Actes chapitre 1, il dit, vous allez d'abord rester à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Combien d'entre vous, vous pouvez rester à Jérusalem, même si c'est dur, mais vous savez le faire? Oui, ok. Étape numéro 1, je peux le faire. Très bien. Étape numéro 2, vous serez... En conséquence de l'étape numéro 1, vous serez mes témoins à Jérusalem. OK? OK, bon, d'accord, c'est un défi. Mais, vous savez, après qu'ils avaient abouti étape numéro 1, l'étape numéro 2 était... Et puis, une fois qu'ils étaient fidèles à l'étape numéro 2, témoins à Judée, bon, c'était juste une suite naturelle. Et puis, la Samarie, encore la suite, et puis jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus, il était pratique dans le plan. Il n'a pas juste laissé les disciples avec « Allez, faites de toutes les nations mes disciples. » Okay? Il a donné un plan. Il était pratique. Il a donné des étapes qui étaient réalistes. Souvent, quand on délègue une tâche, on commence avec « Allez, le gendre, allez, et faites de toutes les nations des disciples. » Waouh, c'est une grande vision, mais ce n'est pas une étape. Okay? Numéro 5. Page 15. Numéro 5, il a sélectionné et formé les leaders. Il a choisi ou sélectionné et formé. On parlera de ça dans un instant, mais il faut que nous soyons proactifs. Paul, il a dit tout à l'heure, recruter, recruter, recruter. Il faut qu'on ait toujours un œil ouvert à ceux qui ont envie de servir le Seigneur. Toujours. Il ne faut pas attendre à ce qui vient frapper à ta porte. Il faut aller à la recherche des gens. Jésus, il a prié toute la nuit, ensuite il est descendu et il a choisi ses apôtres. OK? Numéro 6. Il les a envoyés servir chacun selon ses talents. Il les a envoyés servir chacun selon ses talents. Et puis, numéro 7, il n'a fait lui-même que ce qu'il ne pouvait pas faire. Moïse n'a fait lui-même que ce qu'il ne pouvait pas faire, les autres. C'est-à-dire qu'il a dit que lorsque vous rencontrez une situation trop importante, vous l'amenez à moi. Regardons juste maintenant la prochaine section sur tes notes. Parce que, honnêtement, j'ai eu un petit problème avec. Et je ne sais pas si quelque chose a été perdu dans la traduction de l'anglais en français, souvent c'est le cas. Combien vous avez déjà appris anglais à l'école? Vous savez que parfois, on a des choses, des concepts en français qui ne se traduisent pas. En anglais, ça marche aussi dans l'autre sens. Okay? Pour au moins, un leader est toujours un serviteur. Il a toujours un cœur de service. Ça me dérange énormément lorsque je vois le pasteur qui arrive en grosse berline avec quatre personnes qui lui ouvrent les portes et il y a le tapis rouge et puis il y a 10 personnes pour porter son sac. Et puis, il arrive dans le seul bureau qui est climatisé. Les autres sont dans la grande salle, serrés comme les sardines. Et lui, il mange, il boit, il se rafraîchit. Et puis, les autres sont dans la prière, dans le jeûne. Ils font le grand combat. Et puis, l'homme de Dieu, il arrive sur un nuage. Il prêche. Et puis, tout de suite, les gardes-corps l'enlèvent de peur que quelqu'un... Malsen le touche. Et j'ai dit, OK, bon, je ne t'ai jamais béni in. Je ne dis pas qu'il le fait comme ça, mais je ne sais pas. Pour moi, j'ai un problème parce que je ne vois pas Jésus faire ainsi. Jésus aimait être avec les gens. Parfois, les gens les plus pauvres. Quand il voyait les pharisiens s'accorder, se donner des honneurs, Jésus a dénoncé ce genre d'attitude en faveur justement de ceux qui étaient des servantes, des serviteurs, etc. Vous vous souvenez la fois, c'était juste avant qu'il soit trahi par Judas. C'est dans l'évangile de Jean, là où il juste avant la Sainte Cène, le dernier repas du Seigneur. Et puis Jésus, il prend la serviette, il commence à laver les pieds de ses disciples. Il a dit, voilà, je vous donne un exemple à suivre. Extraordinaire. Amen. Je crois qu'il faut toujours avoir un cœur de servir. Écoutez ce qui est écrit en Matthieu 20 et le verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Et Luc, chapitre 22, les versets 24 à 26. Luc 22, versets 24 à 26. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit, « Les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui le dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'ils n'en soient pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. » Vous savez, ça arrive toujours à moi et mon épouse de ranger les chaises, remplacer le papier toilette dans les WC, venir avec un tournevis et marteau et faire les bricoles dans le bâtiment. Ça ne pose aucun problème. Il ne faut pas que ça pose un problème. Quand on parle de serviteur, ou d'être un leader au lieu d'un serviteur, ce n'est pas dans le sens de perdre le cœur de servir. Moi, je le dis comme ça. Nous avons le cœur de servir les gens, mais on n'est pas au service des gens. C'est ça la différence. On est au service de Dieu, mais on a un cœur à servir les gens. Est-ce que vous voyez la différence? J'espère que j'ai bien touché cette finesse dans la langue française, qui parfois, j'avoue, m'échappe. Quelqu'un qui est au service des gens, il sert les gens, tandis qu'un leader, il va servir les gens, mais il est au service de Dieu. Quelqu'un qui est au service des gens, il s'inquiète uniquement aux besoins du peuple. Il voit le besoin. Mais un leader, il voit le potentiel. Il n'est pas obsédé par le besoin. Il ne va pas réagir parce qu'il y a un besoin dans l'Église. Hello. Nous ne sommes pas des pompiers. Nous sommes plus des architectes que des pompiers. OK? Mais il y a beaucoup d'entre nous qui ont ce que j'appelle le complexe messianique. C'est-à-dire que nous aimons tellement aider les gens qu'on a besoin des malades pour sentir bien. Pourquoi? Parce que je reçois tellement de vie, d'un sentiment de récompense que j'ai vraiment bien fait mon boulot parce que j'ai aidé quelqu'un à sortir de ses angoisses. Ben, gloire à Dieu. Il faut aider les gens à sortir de leurs angoisses. On est d'accord? Mais un pompier, il ne peut jamais construire. Un architecte peut, quand il le faut, éteindre un feu, un incendie. Mais un pompier ne peut jamais apprendre à construire. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mes amis, nous sommes des architectes. Il faut que nous soyons focalisés sur le potentiel qui est devant nous et non pas juste s'épuiser en courant derrière chaque feu qui s'élève dans l'église. Parce que tôt ou tard, le diable, il va comprendre. Il peut t'épuiser. Il allume des feux un peu de partout, juste pour t'embêter. Je n'oublierai jamais lorsque le Seigneur m'a donné une conviction, une révélation et conviction par rapport à un jour de repos. Dieu n'a pas s'arrêté à être le jour du Shabbat lorsque Jésus est mort sur la croix. Il est toujours le Dieu de repos. Alors, j'ai reçu vraiment quelque chose de la part de Dieu, je crois vraiment, qu'il fallait un jour de repos par semaine. J'ai dit, OK, Seigneur, on va voir. J'ai annoncé à l'église. Mes enfants étaient petits à l'époque. On a déclaré le mercredi comme jour de repos. J'ai dit, désormais, vous ne tomberez pas malade le mercredi. Vous vous trouverez jamais à l'hôpital le mercredi. Vous n'aurez jamais le désir de te suicider le mercredi. Voilà, car désormais, nous sommes en repos le mercredi. On n'a pas reçu d'appel ni le lundi, ni le mardi, mais dès 9h du matin, le mercredi. Toute la journée, le téléphone a sonné. Je dis, c'est incroyable. Le téléphone n'a quasiment jamais sonné un mercredi. Mais à peine de l'annoncer, le téléphone sonne. Ah, c'était dur. Hein? C'était très, très, très dur. Et même, c'était quelqu'un extrême. Que malgré ma bonne déclaration de foi, quelqu'un s'est retrouvé à l'hôpital. Il avait vraiment besoin de son pasteur. Et le pasteur a dit, non, je ne décroche pas le téléphone. C'était horrible. J'ai payé un prix. Maintenant, à vous de juger si c'était le bon prix ou pas. Mais le diable, il sait comment allumer les feux. Il le sait. Mes amis, vous êtes des architectes, pas des pompiers. Parfois, il faut juste laisser une part de l'église brûler. Ok, je vois que ce conseil était vraiment bien reçu. Le feu, parfois, ça chauffe. Combien de fois on a pris au Seigneur, donne-nous le feu? Alors là. Pourquoi c'est si difficile pour nous de trouver les gens fidèles? Je vais essayer d'éviter de dire pourquoi c'est si difficile de déléguer. Parce que si je le dis, on devient très défensif. On dit, bon, mais quand même, hein, je peux déléguer, je déléguerai mieux si j'avais des gens plus fidèles. Ok, d'accord. Bon, on va essayer de naviguer à travers ce champ miné, d'accord? Mais le résultat doit être pareil. Nous allons apprendre, mes amis. Amen. Il faut, de toute manière. Il faut, là où le Seigneur veut nous envoyer, nous amener, il faut qu'on apprenne mieux déléguer, mieux former les autres. Okay? Il y a plusieurs raisons. Bon, John, il nous donne quelques-uns ici. On a du mal. On pense que c'est trop difficile à équiper les autres. Moi, je dirais que, je parie que ici, vous ne pensez pas que c'est trop difficile. Mais comme un mécanique, si vous n'avez pas des bons outils, vous allez trouver le travail d'un mécanique très difficile. Il vous faut des outils. C'est tout. Ben, ce n'est pas tout, mais ça fait partie beaucoup de notre boulot. On essaie de faire la mécanique avec des outils qu'on trouve dans une cuisine. Ça va pas, quoi. Et on trouve qu'on est fatigué, on est frustré, et les gens qu'on essaie de former sont frustrés aussi. Mais ce n'est pas difficile, c'est juste qu'il faut des bons outils. Numéro 2, ils disent qu'ils ne sont pas sûrs d'eux. C'est-à-dire que nous, on n'est pas très sûrs de nous-mêmes. Ça, j'y dirais, il a probablement raison. Le niveau, ce n'est pas de l'insécurité, je pense que c'est le fait d'avoir grandi dans un environnement de méfiance. On se méfie de nous-mêmes. Est-ce que vous me suivez? On a peur d'essayer, de peur qu'on va échouer. Mes enfants, en élevant mes enfants à la maison, on avait une règle en béton. Dans la maison, à l'intérieur de la maison, on ne parle qu'en anglais. Parce que je voulais vraiment que les enfants soient bilingues à la fin de, leurs études. Et c'était très dur. Même parfois, les enfants ne voulaient pas parler français, autrefois ils ne voulaient plus parler anglais, etc. Mais on est resté ferme et puis maintenant elles sont grandies, elles sont très reconnaissantes. Mais vous imaginez ma fille qui parle parfaitement anglais, même mieux que moi, dans les cours d'anglais, elle entend dire toutes sortes de trucs qui sont faux, parce qu'on ne sait pas où ce prof a appris l'anglais. Peut-être au Japon, j'en sais rien. Mais de toute manière, je sais que tous les profs d'anglais ne sont pas comme le prof de ma fille, mais bon, Je ne connais pas tous, je ne connais que le prof de ma fille. Et vraiment, parfois, quand je vois marqué rouge faux sur le papier de ma fille, je dis, mais ah ben, ce n'est pas du tout faux, ça. Tu dis, mais attends, mais qu'est-ce qu'on parle à l'école? Parce que je pense que je connais une ou deux choses sur l'anglais. Même trois, OK. Mais c'est incroyable. Et jamais 20 sur 20. Jamais. 19. 19 et demi, mais jamais 20. Ma fille a demandé à son prof, parce que il n'y avait pour une fois, OK, elle n'avait aucun rouge marqué sur son papier, mais quand même, 19 sur 20. Elle a posé la question au prof, mais qu'y a-t-il avec mon papier pour qu'il n'y ait pas 20 sur 20? Le prof a dit, on ne peut pas donner 20 sur 20. Et c'est quelqu'un qui a pris 12 heures de philo par semaine, voilà. Et ma fille a dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait de mauvais sur le papier? Oh, rien, c'était parfait. Pourquoi pas 20 sur 20? Parce qu'on n'a pas le droit, parce que ça c'est parfait et personne n'est parfait. J'ai dit, voilà, Seigneur, il faut vraiment que tu m'aides à comprendre ça. Maintenant, je comprends pourquoi la plupart vous étiez traumatisés à l'école. Et pourquoi vous avez peur d'essayer quelque chose? Parce qu'on vous a fait penser qu'il faut être 20 sur 20 avant d'essayer. Le fait est, qui dans ce pays sera 20 sur 20? Personne! Personne. Mais le royaume de Dieu a besoin des innovateurs. Le royaume de Dieu cherche toujours des pionniers, des bâtisseurs, les gens qui n'ont pas peur de prendre le risque. Numéro 3, ils ont l'impression d'être seuls. Ah oui, ça c'est un grand mensonge. Seul, être seul. Je suis tout seul, Seigneur. Personne ne me comprend, personne ne m'aime. Vous avez entendu parler du gars qui a dit, c'était le dimanche matin, sa maman tape à la porte. « Fiston, il faut que tu te réveilles. C'est l'heure d'aller à l'église. »« Ah, maman, je ne veux pas aller à l'église. »« Bah si, il faut que tu ailles à l'église. » Tu connais cette histoire? Tu l'as déjà racontée? Ah, pas eux, OK. Et le garçon dit, « Mais maman, je ne veux pas aller. Les gens sont méchants. Et de toute manière, ils ne m'aiment pas. » Oh ben, qu'est-ce que tu as contre mon fils? Bien sûr, ces gens t'aiment. Ils t'aiment et ils pensent que tu es vraiment bien, tu es génial. Il faut que tu t'élèves. Mais maman, je ne veux pas, je veux rester au lit aujourd'hui. Je ne veux pas aller. Je vois aucune raison d'aller à cette église. Je n'apprends jamais rien. Les gens sont méchants. Fiston, mais il faut que tu te réveilles, il faut que tu ailles à l'église. Ben, maman, donne-moi juste une bonne raison. Pourquoi dois-je aller à l'église? Parce que c'est toi le pasteur. On pense parfois qu'on est seul. Pire encore, c'est parce qu'on ne fait pas confiance aux autres. On a du mal à faire confiance aux autres. Et que se passerait-il si le gars échoue? Ben, il échoue. Et tu dois apprendre que la vie continue après l'échec. Amen. Le royaume céleste ne va pas s'arrêter parce que ton assistant a échoué. Ce ne serait pas la première fois qu'un assistant a échoué. Amen. Et ce ne serait pas la dernière fois non plus. Jésus, dans un sens, OK, ne prenez pas ça dans un sens théologique, mais dans le sens de la vie quotidienne. On peut dire que Jésus a échoué avec un de ses 12. Mais ça n'a pas arrêté Jésus à se ressusciter d'entre les morts. Il a continué sur sa mission. Amen. Je sais, on peut faire le grand débat si Judas était destiné à trahir le Seigneur, ou est-ce que c'était contre... Tu vois, ça, ce n'est pas le débat pour ce soir. Ça, je laisse entre les mains des vrais théologiens. Je suis quelqu'un trop pratique pour être un théologien. Mais je crois qu'il y a parfois des choses qu'on ne peut jamais expliquer. On va vivre. Si tu es jeune, tu vivras probablement. Ce n'est pas une prophétie, c'est statistiquement prouvé. Tu dois gérer parfois les échecs des autres. C'est déjà difficile de gérer tes propres échecs. Mais c'est encore une autre chose de gérer les échecs des autres. Mais en tant que leader, tu n'as pas d'autres options. Si tu veux déléguer, il ne faut pas juste déléguer une tâche, il faut aussi déléguer l'autorité. Mais déléguer l'autorité veut dire que tu donnes la liberté d'échouer. Et ça, ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Parce que si toi, tu n'as jamais eu ce privilège et la liberté d'échouer, vous aurez peur de laisser quelqu'un cette liberté. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Okay. On est en manque de confiance. Et parce que quelqu'un a échoué dans le passé, n'attribue pas cet échec à ton prochain assistant. Il n'est pas responsable pour les échecs des autres. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Okay. Parfois, nous avons juste des mauvaises habitudes. Je ne sais pas si vous avez jamais entendu le dicton « Si tu veux qu'une chose soit bien faite, fais-le toi-même. » Parce que, à vrai dire, combien sont des pasteurs principaux ici? Okay. N'est-ce pas vrai? Personne ne peut le faire aussi bien que toi dans l'église. Personne ne peut jamais aimer l'église autant que toi. Personne ne peut jamais aimer les brebis autant que toi. Prêcher aussi bien, prier aussi bien, faire tout le reste aussi bien. Ok? Bon, déjà, c'est faux. C'est vachement faux. Mais, tu vois, on a peur, on est en panne de confiance dans les autres. C'est une vraie maladie et c'est un handicap dans notre société d'avoir autant de méfiance. Il faut comprendre, mes amis, que ce qui est normal ici n'est pas vraiment normal. Tu vois, je ne sais pas si tu as jamais allé dans les vestiaires d'hommes après un match de foot. Là, il y a des odeurs que dans le quotidien, dans les temps normaux, tu trouveras complètement insupportables. Mais tu parles à un gars qui vient faire un match de foot. Il ne sent rien. Pour lui, c'est normal que ça sent mauvais. Parce que tout le monde sent comme ça. N'est-ce pas? Mais quelqu'un qui vient, qui arrive de l'extérieur et qui entre dans les vestiaires, dit « Oh mon Dieu, qui est mort là ?» Parce qu'on baigne dans cet environnement, ça ne veut pas dire que l'environnement est normal. Amen. Débarrassons-nous de cette méfiance. Débarrassons-nous de ces habitudes qui sont destructeurs. Destructives? Oui, ça aussi. Je dis aux membres de mon église, il faut l'interprétation des langues pour être un membre de mon église. On n'a pas vraiment la foi dans les gens. On ne sait pas comment former. Et parfois, il est juste simplement mieux, plus facile d'être à la tête des suiveurs que d'être à la tête des responsables. Ok, on a quelques questions. Ah oui, si je peux dire. C'est ce que j'appelle les cinq étapes de leader. Les cinq étapes de leader, ce n'est pas dans votre support, mais je trouve que c'est pas mal. Je l'ai entendu quelque part et je ne sais pas où, mais... Ah bon, je vous les donne quand même. Si je peux. Numéro 1, inspirer. Inspirer. 2, recruter. Tu n'as jamais essayé de recruter quelqu'un qui n'était pas inspiré? Impossible. Peut-être dans d'autres pays, mais pas ici. Et si je peux aussi, il y a une énorme différence de travailler avec, étant un leader, des gens qui travaillent au bénévole, que ceux qui sont salariés. C'est deux mondes à part. Et ce n'est pas forcément les différences entre chrétiens et non-chrétiens. Vous pouvez parler avec n'importe quelle association qui travaille uniquement avec des bénévolats Et on rencontre les mêmes problèmes. Comment récompenser quelqu'un qui est au bénévole? Et vous trouvez que ces principes de leadership s'impliquent autant dans un domaine non chrétien, dans le bénévolat, que dans le domaine chrétien. Il faut apprendre à les inspirer. C'est le genre de récompense, le seul, qui vraiment marche avec nous. Tu n'as pas décidé de suivre Jésus-Christ par un sentiment de devoir. Et même si tu pries pendant quelque temps par un sentiment de devoir, ça ne va pas durer longtemps. Il faut à un moment donné que tu reçoives une inspiration. C'est ça qui crée le vouloir. Si tu veux déléguer, il faut d'abord inspirer. Alléluia. Juste un moment, lever un dimanche matin en disant, OK, on a besoin des ouvriers pour le ministère aux enfants. Combien? Écoutez-vous, hein? Vous pensez que les enfants vont s'éduquer tout seuls, hein? Ah ben non. Allez, allez, allez. Hein? Une main. Quelqu'un. Tout de suite. Sinon, je n'avance pas dans le culte. Vraiment, vous pensez que vous allez recruter comme ça? Pas pour longtemps. Pas dans ce pays. Dimanche suivant, vous aurez le privilège de prêcher aux chaises vides. Il faut apprendre à inspirer. Deuxième, recruter. Troisième, équiper. Équiper. Quatrième, ressourcer. Vous avez déjà passé par là. Là, on vous donne une tâche à faire, mais jamais les ressources pour le faire. Ce n'est pas juste. Il faut qu'on travaille avec des gens pour les aider à trouver des ressources. Et pas juste dire, OK, j'en ai marre de faire ça, maintenant tu t'en occupes. Envoie-moi une carte postale pour me dire comment ça va. Ah non, ça ne marche pas. OK, ressourcer, et puis finalement, libérer. Libérer. Libérer la personne ou libérer la... Tout à fait, l'autonomie. Libérer la personne, ça veut dire, c'est ça la délégation. OK, pas abdiquer. Libérer et abdiquer, c'est deux choses différentes. OK? En tant que leader, tu as toujours une sorte de responsabilité ultime. C'est comme un parent qui demande à son adolescent de préparer la cuisine pour le repas du soir. Il fait n'importe quoi dans la cuisine et la maison prend feu. Okay, tu ne vas pas dire à ton ado, « OK, maintenant, c'est toi qui vas reconstruire la maison. » Tu es le parent, n'est-ce pas? Tu as une ultime responsabilité par rapport à ses actes. C'est-à-dire que même quand tu délègues, tu n'abdiques jamais. Amen. Jamais abdiquer la surveillance. Alléluia. OK, voilà, c'est ça ce que j'appelle les cinq étapes. Maintenant, je vous pose quelques questions et on va prendre juste deux petites minutes. OK. Parfois, on se trompe. On choisit quelqu'un et on ne pense vraiment que c'est le bon gars. Est-ce que vous vous êtes jamais trompé? OK. On se trompe toujours. Et peut-être le gars que tu as choisi, ça serait un petit peu comme cet homme. En Allemagne, qui se lève un bon matin, en plein hiver, et puis on va voir ce qui se passe avec la voiture. OK, on est prêt? Voilà, c'est juste que parfois, quand on choisit mal quelqu'un pour, comme assistant, c'est pas aussi drôle, n'est-ce pas? Alléluia, mais combien de fois on travaille, bon, on gratte, on fait tout, quoi, et parfois c'est en plein hiver spirituel. Et c'est très dur, mais on travaille. Et puis à la fin, on se rend compte, oula, comment on s'est trompé. OK. Alors, puis-je juste vous poser une question un peu bête, mais quelles sont vos options? OK, vous avez peut-être mal choisi. Ou peut-être vous avez bien choisi, mais c'était le gars qui a pris les mauvaises décisions. Maintenant, quelles sont tes options? Abandonner? Laisser le ministère à quelqu'un d'autre, ou te relever, te re-encourager et essayer à nouveau. Parce que, de mon point de vue, ce sont les seules options qu'on a. Et on n'a pas, il n'y a pas une troisième, n'est-ce pas? Bon, prochaine fois, tu as un assistant qui fait une bêtise, pense à ce clip vidéo. Alléluia. Ok, c'est encore un autre clip de voiture. Fais le voiture catapulte. Tu t'es trompé peut-être sur un responsable ou sur quelqu'un, mais ça aussi, ce n'est pas forcément une bonne solution. Quand ça ne marche pas, ça ne veut pas dire qu'on veut juste catapulter quelqu'un dehors. Amen. Alléluia. Ok. Lumière. Alléluia. Ah, il faut apprendre à rire. Ah, ça ferait vraiment plaisir à Paul si vous apprenez les têtes à claque. Vous connaissez? Non? Ils ne connaissent pas les têtes à claque, Philippe. Ah, c'est tellement drôle. Ça nous est arrivé parfois quand on a nos réunions de responsables qu'on est tellement stressé. On se sent tellement bombardé de droite, de gauche, partout, qu'on dit voilà. On va jeter dehors à la poubelle notre hors de jour et on va regarder quelques clips de tête à claque. Et on passe un temps fou de rire et ça fait tellement de bien. Vraiment. Parfois, on se prend trop au sérieux, frères et sœurs. Hello. Vous pensez que le royaume de Dieu n'a pas bien roulé avant que tu sois là? Ben, il y a toujours deux extrêmes. De se plonger dans le... dans la légèreté. Là, on devient trop léger. Ça, c'est un extrême, c'est un danger. Mais si l'autre côté, c'est aussi un danger, mes amis. Là, on est trop coincé, trop sérieux et on n'arrive jamais à rire. Il faut rire. Le rire fait du bien, c'est un médicament, dit la Bible. Alléluia. Ok. Juste regardez avec moi. Comment trouver quelqu'un? Comment trouver vraiment? J'ai perdu ma place avec ce clip. Je suis où moi? Comment faire grandir les autres en déléguant le ministère? Je suis en bas de page 15, 16. En bas de page 16. Oui, bon, oui, on a sauté. Vous pouvez lire de toute manière, je crois, hein. Ok, donc on va sauter un petit peu parce que j'ai encore un dernier clip à vous montrer, ok, si vous êtes sages. Ça ne vous dérange pas les clips, j'espère? Ok, vous voyez, j'ai dû compenser avec autre chose parce que je n'ai pas la même personnalité que Paul Goulet. Alors j'ai trouvé des clips, quand même, sont drôles. Ok, en bas de page 16. Ok, numéro 1, connaissez-vous bien vous-même? C'est-à-dire vos points forts et vos points faibles, vous en avez les deux. Avez-vous jamais fait une liste de vos points forts et de vos points faibles? Combien ici, vous avez déjà fait une liste de vos points forts et vos points faibles? Vous avez déjà écrit sur noir sur blanc? Ok, ou bleu sur blanc? Ok. Ça ne fait qu'à peu près un tiers des mains. C'est dangereux. Il faut comprendre où tu es fort et où tu es faible. Dieu n'a pas donné un ministère à l'Église. Il en a donné cinq. Et la seule personne dans toute l'histoire qui possédait également et à l'infini tous les cinq ministères, c'était Jésus. En fait, il faut comprendre que dans la Bible, il y a un principe depuis Genèse. L'homme cherche toujours à concentrer le pouvoir. Dieu cherche toujours à décentraliser le pouvoir. En conséquence, vous êtes limité dans vos dons. Vous êtes limité. Vous êtes limité à vos compétences et à vos capacités. La première chose que doit apprendre un leader, c'est qu'il ne peut pas tout faire. C'est la première chose à apprendre. Je crois que c'était... Rockefeller, l'un de ces grands industrialistes aux États-Unis, que après avoir gagné des millions de dollars, quelqu'un lui a demandé, mais tu attribues ta réussite à quoi? Et il a dit, j'ai appris comment m'entourer de gens plus intelligents que moi. Quelle bonne leçon, frères et sœurs. Parfois, parce qu'on n'est tellement pas sûr de nous-mêmes, on s'entoure de gens moins aptes que nous-mêmes. Parce que c'est la seule manière de sentir bien. Et on s'entoure de gens incompétents, incapables, qui sont bien à dire « oui, monsieur, oui, madame, comme tu veux, comme tu veux, comme tu veux, ou comme vous voulez, ça dépend. » Mais ça, mes amis, ça ne va pas faire avancer le royaume de Dieu. Vous le savez bien, c'est pour ça que vous êtes là. Amen. Alléluia. Beaucoup ne sont pas venus, pas beaucoup, pas tout le monde, mais certains profils de gens ne voulaient pas venir à un séminaire sur le leadership de peur qu'ils apprennent qu'ils ne peuvent pas tout faire bien. C'est la première leçon, ce n'est même pas une question d'humilité, c'est une question d'intelligence. Ce n'est pas de l'humilité de reconnaître que tu ne peux pas tout faire. C'est une réalité. Amen. Le poisson ne peut pas regarder et dire à son copain, en regardant un oiseau, un jour je vais voler aussi. On dirait, c'est la stupidité ça. Comme toi et moi, on se prétend de pouvoir tout faire. Christ est capable en moi de tout faire. Amen. Mais justement, dans l'église, dans le milieu du travail avec les gens, Dieu ne veut pas juste élever un one man, okay, un soi-disant réincarnation de Moïse. Ce n'est pas ça dans le Nouveau Testament. La Nouvelle Alliance promet une diversité de dons. Alléluia. Amen. Alors, la meilleure chose pour vous, c'est pour ça que Paul, le plus grand apôtre peut-être, a dit, « Je préfère me vanter là où je suis faible. » Quel sera l'impact dans l'église si dimanche, tu te lèves dans le pupitre et tu commences à expliquer à l'église où tu es faible? Ou peut-être tu le fais déjà. Il ne faut pas le faire tous les dimanches quand même. Ça peut être un peu déprimant. Numéro 2.
Il faut connaître la personne en face de toi. Il faut connaître aussi ses points forts et ses points faibles.
Je me souviens, mon premier poste dans le ministère était pasteur adjoint. Mon pasteur m'a dit, Robert, j'ai besoin d'un administrateur. Et c'est pour ça que je t'ai choisi. Alors, Philippe, il est là. Philippe, c'est mon administrateur. Alors, Philippe, il sait, je suis nul en administration. Je suis tellement perdu. Il faut que ma femme me désigne un plan de la maison pour que je trouve la cuisine. Non, j'exagère. Mais je peux ouvrir le frigo et rien voir. Chérie, la moutarde. Elle est où la moutarde? Juste devant tes yeux. Ah oui, je ne le voyais pas. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Je ne suis pas stupide. C'est juste que j'ai des limites. Numéro 3. Définir la tâche. OK. Donnez-lui par écrit la liste du travail. Autrement dit, en français, fiche de poste. Fiche de poste. Quelqu'un m'a demandé qui allait prêcher dans une église. Il a dit, Robert, qu'est-ce que tu penses à faire un contrat avec l'église? J'ai dit, écoute, le mot contrat, c'est un peu poussé, mais moi, je crois qu'il faut tout écrire. Il faut être sûr, ce qu'ils demandent de toi et ce que tu attends d'eux. Ce n'est pas un manque de confiance, c'est simplement d'avoir de la clarté. Et vous savez, les Français réclament toujours la clarté, n'est-ce pas? Que ça soit clair, c'est tout ce qu'on demande. Bon, faisons clair. Si tu vas déléguer une tâche, écris-la. Écris-la, c'est tout. Le problème, c'est que lorsque tu as commencé cette église, personne n'a écrit ta fiche de poste. Alors, tu n'as pas l'habitude, mais tu peux apprendre. Tu peux apprendre, il faut apprendre. Numéro 4, apprenez-lui le pourquoi. Pourquoi il fait ça? Et ce n'est pas parce que tu l'as dit. Ça ne suffit plus aujourd'hui. Il fut une génération post-Deuxième Guerre mondiale, là où les généraux reviennent de la guerre, amen, et ils rentrent à la maison et disent, « Hey, fils, fais ça !» Pourquoi, papa? Parce que je l'ai dit. Je suis le père, c'est moi qui ordonne, c'est toi qui exécute. Oui, et on voit que ça ne marche pas trop bien. OK? Il faut apprendre le pourquoi du travail. Pourquoi le travail? Quel est le sens? Quelle est la valeur? Numéro 5. Moi, je dis, il faut juste mesurer son progrès. Garde contact. N'ayez pas cette attitude, envoie-moi une carte postale une fois que c'est fait. Garde contact durant la tâche. Demande-lui si tout va bien, s'il a besoin d'aide. Mesurez le travail. Donne les dates limites. Si tu sais que tout doit être fait dans 6 ou 7 mois, bah donne-lui certaines dates limites au bout d'un mois, au bout de 2 mois. Mesurez la tâche et gardez contact avec lui. Numéro 6, passez du temps avec la personne. Investissez-vous dans la personne et il fera bien le travail. OK? Il faut que la personne sache que tu t'intéresses à lui pour qui il est et non pas simplement pour ce qu'il fait pour toi. C'est très important que la personne compte pour toi et non pas juste sa tâche, son travail. 7. Permettez-lui de voir comment vous exercez votre ministère. Laissez-la vous observer. Si vous voulez juste sauter, parce que c'est bien écrit en bas, le processus de développement, c'était le numéro 7. Mais si vous voulez juste regarder rapidement cette partie qui dit le processus de développement, c'est très bien fait. Il dit, je fais et tu regardes. 2, nous faisons ensemble. 3, tu fais et je regarde. 4, on évalue ce qui a été fait. Et numéro 5, tu fais et un autre regarde, te regarde. Et ça, c'est super. OK? Nous sommes à numéro 8. Donnez-lui les ressources et l'autorité nécessaires. Combien de gens sont tellement frustrés, j'en ai dans mon église aussi, parce qu'ils ne sont pas ressourcés. Okay? Et ils n'ont pas encore vraiment reçu l'autorité ou la liberté. Numéro 9, encouragez-la à tenir un journal. Juste curieux, combien ici vous gardez un journal, on appelle ça un journal intime, journal quotidien, journal personnel, quotidien, à peu près quotidien, combien ici? Vous savez, je ne sais pas où je l'ai lu, c'était dans une revue de ministère qui a fait un sondage parmi les pasteurs, ceux qui ont quitté le ministère, ceux qui ont persévéré depuis des longues années. Vous savez que le taux de réussite parmi les pasteurs qui gardent un journal quotidien, à peu près quotidien, est nettement supérieur à ceux qui ne le font pas. Et j'aimerais vraiment vous encourager de développer l'habitude. Je l'ai fait, j'ai commencé il y a à peu près une dizaine d'années, je le fais encore. Et je ne peux pas vous dire le nombre de fois que Dieu est venu vraiment à mon secours pendant ces 15 à 20 minutes le matin, avec un verset et juste en train d'écrire mes pensées. D'écrire même parfois quand je passe par un temps difficile ou décourageant, j'écris, je note tout. Il n'y a que pour mes yeux, mais Dieu me parle à travers. Et parfois, juste le fait d'extérioriser mes pensées et mes sentiments m'aide à mieux gérer. Je vous le suggère très, très, très fortement. OK? Numéro 10, 11, 10. Tenez-la pour responsable. C'est le mot redevabilité. Accountable. J'aime bien le mot en anglais, accountable. C'est un très bon mot. Redevabilité ne dit pas exactement la même chose. Mais ça vient du mot de comptable. C'est-à-dire qu'il fait des comptes et il rend des comptes. Le problème, c'est que quand on le dit en français, il y a un air un peu négatif, un peu sévère, comme si on va prendre une claque. Tandis que c'est un peu plus dans le sens qu'un athlète qui fait ses entraînements. Et le coach vient avant la grande compétition pour faire un contrôle, pour être sûr qu'il fait tout bien. Parce que si l'athlète remporte le prix, le coach sera payé. C'est plus dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est vraiment un sentiment très positif, une ambiance très encourageante. Ce n'est pas présumer que tu fais mal, donc je vais faire le contrôle. C'est pas ça. C'est pas du tout. Il n'y a aucun jugement de préavis, de déjà fait. Je viens parce que mon rôle, c'est de te soutenir dans ce que tu fais. Mon désir plus profond de mon cœur, c'est que tu réussisses. Hello. Et parce que je veux que tu réussisses, je viendrai, je te donnerai un coup de main s'il le faut. Mais laisse-moi voir ce que ton progrès. Voilà, c'est vraiment dans cette attitude-là. Et puis numéro 11, laissez-lui le droit à l'erreur. On a déjà parlé de ça. Il faut donner aux autres la liberté d'échouer. Numéro 2, faites régulièrement les bilans et confirmez-la dans sa tâche. Voilà. Nous avons un règle d'or dans notre équipe. C'est probablement parce que je suis anglo-saxon et je suis toujours très, très, très touché par la critique. Désolé, c'est vraiment un point faible pour moi. Je pense qu'on est tous touchés par la critique. C'est juste que je le montre et vous ne le montrez pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, j'ai imposé, Philippe peut confirmer, j'ai imposé un règle d'or dans notre église. Pour chaque commentaire négatif, il faut donner 2 commentaires positifs. Et c'est pas mal. Ça m'est arrivé pas trop souvent maintenant parce que tout le monde a pris l'habitude. Mais dans le temps, quand il y avait une critique, j'ai dit « Ok, maintenant, 2 commentaires positifs. » C'était dur au début parce qu'on n'a pas l'habitude. Juste pour dire que sur la prochaine page, j'avais aussi un problème avec le diagramme en haut de page 18. Je suis assez allergique à tout diagramme qui est pyramidal. J'aime pas trop, pour être très franc avec vous. Pendant un temps, j'ai entendu parler d'un pyramide à l'envers. Non, il faut se débarrasser de la pyramide. Complètement. Parce que ce n'est pas un modèle biblique. S'il y a une pyramide, il n'y a qu'un seul en haut, ça c'est Dieu. Ok? Et tu n'es pas juste sur le rang en bas de Dieu, ok? Tu n'es pas Dieu pour les gens. Ok? Parfois, ça m'amuse d'entendre certains propos au sujet du catholicisme étant une forme pas biblique, machin, blablabla, et de trouver dans tellement d'églises dites évangéliques et parfois pentecôtistes qui sont aussi autoritaires que le système à Rome. Et c'est juste que pour moi, je préfère l'image d'un roue. Une roue, voilà. Un cercle. Ok? Peut-être tu es au milieu et tu as des branches qui partent dans tous les sens. Hallelujah. Mais l'idée, c'est que dans une équipe, tout roule. Hallelujah. Une pyramide ne roule pas. Mais une roue, ça roule. Faire grandir les autres. Bon, on arrive vraiment à la fin. Oh mon Seigneur, il y a tout ça. Ok, voilà ce qu'on va faire parce qu'il faut vraiment terminer. Et je ne vais pas vous donner tout parce que vous avez déjà toutes les réponses. Et ça ne sert à rien que je vous donne les réponses. Par contre, j'avais juste un commentaire à faire par rapport à ce mot, cette distinction qui est faite ici dans les textes entre un disciple et un leader. Ça me rend très mal à l'aise. Je vous explique pourquoi. J'ai l'impression, en le lisant, j'ai l'impression que le mot qui était là dans la version anglaise, que je n'ai pas lu, mais c'est l'impression que j'ai. C'était le mot « follower », qui n'existe l'équivalent... Suiveur, mais est-ce que suiveur est dans le petit Robert? Ça, c'est dans mon Robert, mais bon. Est-ce que c'est dans le bon Robert? Oui, suiveur? Parce que je crois que c'est ça plutôt une meilleure traduction, et non pas disciple. Quand je lis ma Bible, Jésus, il a choisi 12 disciples, et leur a donné la tâche d'un apôtre. Alors, c'est pour ça que je n'aime pas trop la distinction. Voilà, toi, tu es un leader, mais lui, il n'est pas un leader, c'est un disciple. Parce que dans mon dictionnaire, un disciple est un leader. Excusez-moi, accordez-moi juste la liberté de traduction, de retraduire les textes, et je préfère le mot suiveur. Parce que là, ça marche très bien. Si vous rayez le mot disciple et vous mettez le mot suiveur, là, il y a du sens. C'est logique. Par exemple, le numéro 3, c'est le mot priorité. Les leaders qui forment des suiveurs réservent leurs efforts pour ceux qui ont le plus de besoins. Qui ont le plus de besoins, c'est le mot. Un suiveur, c'est-à-dire qu'on focalise sur leurs besoins, tandis qu'un leader qui forme les leaders réserve son investissement, ses efforts, pour ceux qui présentent le plus de potentiel. Dirigeant, oui, ça marche. Encore une fois, la suggestion est de garder le mot disciple et remplacer le mot leader avec dirigeant. Bon, déjà, pourquoi on utilise le mot leader ici? Okay. Il y a un concept derrière le mot en anglais qui font un paragraphe en français pour décrire. Et puis le mot leader existe dans certaines traductions en anglais, dans la Bible. Je ne sais pas si vous avez jamais vu les westerns, les films westerns. Quoique, je pense que le même principe s'applique aussi dans les armées du Moyen-Âge. Quand tu as le cavalerie, ou même les soldats à pied, okay, il n'y avait pas des systèmes de communication sophistiqués comme nous avons aujourd'hui. La seule communication, c'était le gars qui portait l'étendard. Okay. Et le gars qui porte l'étendard était toujours devant les autres. N'est-ce pas? Alors, quand tu es l'ennemi et tu vois cette armée qui s'avance vers toi, tu tires sur qui en premier? Sur le gars qui porte l'étendard. Pourquoi? Parce que s'il tombe, alors les soldats sont un peu dans la confusion jusqu'à ce que quelqu'un relève l'étendard et continue la marche. Si tu veux, le mot « leader » en anglais évoque la notion de porter l'étendard et non pas de faire le travail du général derrière, qui travaille en toute sécurité. Tu vois, mon problème avec le mot « dirigeant », la manière dont moi je l'ai appris, c'est que ça peut évoquer le gars derrière, qui dirige les autres, mais pas forcément le gars qui marche devant, derrière lesquels les autres marchent. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça ce qu'il faut comprendre quand on utilise le mot « leader », c'est ça. C'est le gars qui porte cet étendard. Et c'est lui sur lequel on va tirer en premier. Maintenant, est-ce que vous êtes prêt d'être un leader? Et quand on dit « suiveur », on ne parle pas de ceux qui... Le leader n'est pas en première classe et les suiveurs en deuxième classe. Il n'est pas question de classe dans la Bible. Encore une fois, c'est les aspects culturels. C'est le fait que nous sommes tous les soldats, en fait, et le seul qui ne porte pas d'armes, c'est le gars qui porte l'étendard. C'est intéressant. En tout cas, quand on dit suiveur, on parle de tous les soldats qui sont derrière l'étendard. Il n'y a pas de classe différente. Il n'y a pas de diplômé et de non-diplômé. Il n'y a pas la notion de grade quand tu es tous sur le champ de guerre. Et on reçoit tous les balles. Amen. Et ça, j'aimerais vraiment que vous gardiez cette image dans les pensées, surtout dans les textes pareils qui essaient de distinguer entre ceux qui sont un leader qui doit déléguer à quelqu'un d'autre et quelqu'un qui n'est pas du tout un leader, mais qui représente peut-être un potentiel pour devenir. On va terminer avec un tout dernier clip. OK. Alors, parfois, vous vous souvenez le premier clip? Super souris. Okay, ça, c'est le super chien. Il se peut, frères et sœurs, qu'on rencontre parfois les blocages qui semblent impossibles. Impossibles. Quand on avait besoin d'un local pour notre assemblée, on a trouvé un local qui était vraiment dans une zone. C'était horrible. Et tout le monde me disait, tu ne peux jamais avoir ce local. C'est impossible, Robert. Je voulais acheter une maison. Les gens disaient... Robert, c'est impossible, tu ne peux jamais acheter une maison. J'aime bien maintenant quand les gens me disent, c'est impossible, ça ne peut pas se faire, pas ici, pas ici. Je n'ai jamais eu une fiche de paye. Depuis 1980, c'était la dernière fois que j'ai eu une fiche de paye. Alléluia. Mais je suis propriétaire de ma maison. C'était un miracle, oui, c'était une intervention divine. et qui sait, peut-être même c'était illégal, sans que je le sache, mais bon. Mais parfois Dieu, il fait des miracles. Et vous avez vos histoires aussi, mes amis. Vous avez vos victoires. Vous savez que Dieu peut tout. Et si je peux vous laisser avec une seule pensée, c'est cette dernière image. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Ne laisse jamais quelqu'un te dire, tu peux pas. Tu n'as pas la bonne couleur de peau. Tu n'as pas la bonne éducation. Tu n'es pas né dans le bon pays. Tu n'as pas le bon sexe. Tu n'as pas ceci. Tu n'as pas cela. Mes amis, avec Dieu, rien n'est impossible. Amen. Alléluia. Ok, super chien.